Alors, tout d'abord, mes sincères remerciements aux collègues, aux amis du réseau MIMED, à la fois pour cette invitation à parler aujourd'hui et puis également pour avoir intégré un laboratoire de recherche en littérature dans ce réseau. Et puis aussi mes excuses, c'est le prix à payer quand on prend la parole en dernière position. Il y aura d'inévitables répétitions, disons des échos avec des propos qui ont déjà été énoncés. Donc la migration, conditions sociales ou conditions humaines. Calais, la jungle, Lampedusa, Kos, la chapelle, crise migratoire, dit-on. Crise migratoire, non. Ce n'est ni la migration ni les migrants qui sont en jeu. La migration se porte très bien, elle n'est pas en crise. Le mouvement en Europe continue malgré les drames à répétition de janvier à septembre 2015, environ 400 000 migrants sont entrés en Europe. Ce n'est pas plus une crise migratoire que la question des SDF, qui chaque hiver revient envahir les tribunes journalistiques, n'est une crise de l'hébergement, ou que la tension autour des gens du voyage, une crise de l'infrastructure routière. Pas davantage une crise sociale ou économique, sauf à les considérer comme les conséquences d'une profonde perturbation d'un autre ordre, mais bien une crise politique et morale. En d'autres termes, une crise éthique, si celle-ci accueille le croisement du vivre ensemble et d'un idéal du vivre ensemble. Crise humanitaire, non plus, mais une crise de l'humain, de sa définition, des limites de ce qu'une culture, la culture occidentale par exemple, européenne ou nord-américaine, est prête à comprendre comme relevant de l'humain, qu'on l'appelle autrui, mon frère, mon camarade ou l'exilé. Peut-être la migration en crise, mais pas une crise migratoire. La migration en crise, c'est-à-dire la conscience que la notion a besoin d'être redéfinie afin que ces procédures redeviennent efficaces et pertinentes. S'il existe une planète migratoire, selon l'expression de Gilda Simon, ou un monde des camps, selon l'expression de Michel Agier, je signale ces deux syntagmes parce qu'en sciences humaines et sociales, il y a des stylistes et d'autres qui ne le sont pas. Et les deux noms que je viens de citer sont effectivement des chercheurs qui sont des stylistes. S'il existe donc une planète migratoire ou un monde des camps, il convient de les explorer, de les analyser, afin de mieux les habiter et d'y coexister. Et sur un plan plus local, c'est enfin une crise de l'Europe qui doit retrouver son devenir dans un profil d'accueil et non de refus. Le cadre de ma réflexion sera celui de cette actualité. Une des dernières manifestations de la soi-disant crise, mais un vrai symptôme de crise, le débat autour des appellations. Du Monde à rue 89, en passant par Libération, des voix s'élèvent pour dénoncer le mauvais usage de tel ou tel mot afin d'en préconiser un autre. Je suis un littéraire et je suis donc attentif au langage. Cessons de les nommer migrants, dit-on, ce sont des réfugiés. Le passage d'un terme à l'autre, de migrant à réfugié, a pour effet volontaire de déneutraliser la situation et de lui redonner une dimension pleinement dramatique, pleinement humaine. En effet, l'étymologie nous rappelle que le sens de refuge inclut l'idée d'une fuite, fugere, une fuite préalable. D'autant que le préfixe « ré » indique non pas la répétition, mais l'intensité. C'est donc une fuite très intense. Les réfugiés ont fui les conditions d'une vie impossible et ce départ involontaire fait partie de leur identité. À ce titre, qu'ils fuient la guerre ou la misère importe peu. Loin d'une lâcheté, leur fuite affirme la noblesse humaine qu'ils n'acceptent pas de voir nier en eux. S'ils fuient afin de vivre, leur refuser le refuge, même sous la forme d'une simple dénomination, refuser de les nommer réfugiés, équivaut à adopter une complicité passive avec ceux qui les ont poussés à la fuite. Être réfugié signifie d'abord être lorsqu'un sujet fuit la menace du non-être. De même, André Néer affirmait qu'après la Shoah, qui visait à priver d'existence l'ensemble du peuple juif, être juif signifiait simplement être. L'emploi de réfugiés, aussi moralement fondé, relève cependant une erreur lexicale de catégorisation, puisque la langue du droit n'utilise le terme et n'accorde le statut que lorsque l'asile a été accordé. Demandeur d'asile justifie alors sa pertinence. Cependant, la position de demandeur crée de facto et d'une façon générale une asymétrie qui place les uns en position de pouvoir et les autres de soumission. Vouloir cependant parler de réfugié est compréhensible s'il se justifie d'une part comme l'expression d'un souhait que le refuge vous soit accordé et d'autre part comme la prise en compte du destin de celui qui arrive. Le nommé ainsi insiste sur son trajet et sur son désir, en fait des vecteurs de son identité et à ce titre dessine une responsabilité. Celui qui nomme l'arrivant réfugié se trouve alors sur le seuil avec le pouvoir d'ouvrir ou non la porte, d'accorder le refuge ou non. On demande le refuge ou l'asile comme on donne le refuge ou l'asile. Cela suffit-il pour poser l'équivalence? Je ne crois pas. Le refuge et l'asile affichent une distinction sous un double aspect, temporel et subjectif. Puisque refuge sous-entend une fuite, il s'appuie sur une action. Le réfugié est celui qui fuit ou qui a fui, ce qui déplace l'attention sur l'acteur, sur le sujet, et ce qui sous-entend une fin possible de cette action, accordant donc une dimension provisoire à l'idée de refuge. Le refuge s'accorde devant l'imminence d'un danger et perd donc de sa valeur lorsque le danger est écarté. D'où une légitimité théorique, non politique, de l'idée sarkozienne d'un, je cite, « statut provisoire de réfugié de guerre », qui d'ailleurs existe déjà en France sous la forme de la protection subsidiaire qui date de 2003, et au niveau européen de la protection immédiate et temporaire qui date, elle, de 2001. Nonobstant le refus de la Convention de Genève de 1951 de distinguer entre les réfugiés, le statut de réfugié, au demeurant, n'est pas inamovible. Il peut être révoqué, ou alors le réfugié peut y renoncer. Asile, en revanche, dont le sens étymologique exprime le non-pillage, c'est un A privatif, la préservation de la dévastation, la protection contre la dévastation, renvoie donc à un lieu, un sol hors sol qu'il convient de gérer, un sol hors sol auquel une juridiction s'attache. Le regard se pose non plus sur celui qu'on accueille, le réfugié, mais sur le dispositif qui l'accueille, induisant donc une dimension potentielle de permanence. D'où un droit d'asile et non un droit de refuge. D'ailleurs, asile se dit aussi pour désigner des lieux de vie permanents, personnes âgées, personnes mentalement atteintes. Dans le deuxième chapitre de la neuvième partie de Notre-Dame de Paris, voici enfin la littérature que vous attendez tous, de Notre-Dame de Paris, Victor Hugo évoque, et ça sera Victor Hugo notre compagnon littéraire ce soir, Victor Hugo évoque les villes françaises du Moyen-Âge jusqu'au XVIe siècle et leurs lieux d'asile, comme dit-il, des espèces d'îles qui s'élevaient au-dessus du niveau de la justice humaine. Et je le cite, les palais du roi, les hôtels des princes, les églises surtout avaient droit d'asile. C'est donc le lieu qui exerçait le droit d'asile, et donc la permanence d'un lieu. Entre asile et refuge se joue ainsi la différence de perspective entre conditions sociales et conditions humaines. Je ne crois pas nécessaire de gommer cette tension entre conditions humaines et conditions sociales. Je souhaite la maintenir en réfléchissant sur la condition exilique. Après l'examen ce matin du couple migration-voyage, puis du couple migrant-réfugié, il semble pertinent d'interroger le couple migrant-exilé. Entre le migrant et l'exilé, la différence n'est pas tant de nomination que de perspective, celle distinguant les approches d'Émile Durkheim et de Georg Simmel, qui en pionnier de la sociologie ont tous deux réfléchi sur la problématique. Le migrant, pour Durkheim, est considéré quant à sa fonction au sein des grandes structures sociales et des rapports de domination dans la sphère économique. Alors que Simmel porte son attention sur l'intériorisation par l'étranger des ambivalences psychologiques provoquées par les déplacements migratoires dans la modernité de son époque. Pour le premier, pour Durkheim, la migration est phénomène social. Pour le second, pour Georg Simmel, elle est expérience humaine. Deux définitions appliquées dans la distinction entre migration et exil. Une condition exilique est utile en opposition à la catégorie des migrants qui constitue à la fois une réalité socio-économique et un foyer de fantasmes, nourrissant à ce double titre des discours tant politiques que journalistiques. Cependant, le migrant dessine une figure sans chair et sans ombre qui vient illustrer ou susciter une logique gestionnaire. Essentialiser la migration, avec le risque de toute essentialisation, essentialisation et migration sous le signe de l'exil, équivaut à faire vivre les migrants, à leur accorder le refuge. De surcroît, la terminologie n'est pas innocente et le terme de migration semble exercer une aimantation idéologique néfaste, migration régulière, irrégulière, légale, illégale. L'expérience exilique représente un noyau existentiel qui serait alors commun à tous les phénomènes de mobilité, sous contrainte ou volontaire, quel qu'en soit le type. Ce changement de paradigme par rapport au lexique de la migration ouvre une pensée axée sur la notion d'exilience. L'exilience serait ce noyau existentiel propre à tous les sujets en mobilité. Penser l'exil, réfléchir sur ses manifestations en tant qu'expérience, c'est-à-dire dans une dimension à la fois individuelle et collective, une expérience se vit et une expérience se transmet, recentre alors sur le réel le discours traitant de la migration qui, à coup de statistiques et d'analyses économiques, tente à effacer le sujet migrant. Mais avancer l'exil comme condition commune à toutes les expériences de mobilité, quelles qu'en soient les conditions historiques ou géographiques, ne signifie pas tisser un fourre-tout typologique, ce qui représenterait à la fois une attaque morale contre l'individualité des sujets en migration et un obstacle pour penser leurs itinéraires. Dans mon ouvrage « La condition de l'exilé », j'ai tenté d'étudier cette similarité exilique en respectant les spécificités et grâce à elles, puisque c'est leur examen qui permet de dégager les grands traits. Dans cette optique, ce noyau existentiel commun, ce que je nomme exilience, est à la fois une condition et une conscience. Les deux ne coïncident pas. On peut se sentir en exil sans l'être concrètement. Ce serait une conscience sans condition. On peut l'être concrètement sans se sentir en exil. Ce serait une condition sans conscience. Pour prendre d'exemple littéraire, le narrateur du bateau ivre de Rimbaud représenterait le premier cas, il se sent en exil mais il ne l'est pas, et le second serait illustré par Gregor Samsa, le protagoniste de la Métamorphose de Kafka. C'est parce que l'exilience serait reconnue dans cette ampleur qu'elle pourrait suggérer, inspirer un droit d'exil. Les dernières décennies ont vu, pour citer Jérôme Valluy, le grand retournement du droit de l'asile, qui a fait passer la figure du réfugié de victime à coupable. Les replis nationaux, pas toujours nationalistes, le primat économique, les stratégies étatiques en découlant quant à la croissance et à la compétition, les pressions de la globalisation et en Europe, les ratés du développement communautaire, j'entends du développement de la communauté européenne. Tous ces facteurs ont mené à une réévaluation négative du droit d'asile, dont la carence invite alors à demander son remplacement. Alors qu'il repose sur celui qui accueille, le droit d'asile repose sur celui qui accueille, exiger alors un droit d'exil qui reposerait sur celui qui arrive. En outre, le droit d'asile fut conçu pour une application à une échelle individuelle qui ne correspond plus à la masse actuelle des arrivants. Alors, plutôt qu'une réforme ou une amélioration du droit d'asile, pourquoi ne pas rebâtir les politiques et les législations sur un droit d'exil ou, dans les termes de Catherine Vitold de Velden, sur la symétrie entre droit d'entrée et droit de sortie. On peut toutefois se demander si, après le droit d'asile, et le droit d'émigrer, selon l'expression de Catherine, le droit d'exil est une variation sur son droit d'émigrer, mais je n'ai pas résisté en tant qu'littéraire à l'allitération, droit d'asile, droit d'exil. Est-il encore besoin de faire voix à une revendication qui semble n'être qu'une variation sur le contenu des deux précédents droits? Oui, justement parce que loin d'être une stérile répétition, le droit d'exil viendrait renouveler la compréhension de ce qui est en jeu dans ces questions et qu'il pourrait, je crois, permettre la sortie des impasses actuelles. Non seulement il ne remplace pas le droit d'asile et le droit d'émigrer, mais il les complète. Il les prolonge et il les soutient à la fois. Le droit d'exil se voudrait un droit fondamental, similaire au droit de la personne, un concept fondateur avec valeur d'inspiration politique et juridique. À ce titre, il doit être fondé dans la pensée, dans le discours, avant de susciter des applications possibles. Les droits du citoyen suivent la révolution philosophique des Lumières. L'écologie, plus récemment, a suivi un tel processus. Elle naît d'une conscience avant d'entraîner des pratiques sociales. Un autre exemple, encore plus récent, serait le droit des animaux, devenu récemment un objet de débat. Internationalement défini, le droit d'asile reste lettre morte s'il n'est pas accompagné d'un droit d'exil, s'il n'est pas accompagné de la prise en compte de l'itinéraire de celui qui arrive. On ne devrait pas hésiter, puisque ce droit d'exil s'insérerait parfaitement dans le décor idéologique mis en place en Occident par l'esprit des Lumières. Voici trois siècles, les droits de l'homme reposant sur la liberté humaine, ce dont la meilleure illustration est fournie par le devoir d'hospitalité que l'universalisme de Kant exige au service de la paix perpétuelle. Or, la modernité, loin d'augmenter la portée de ce droit, n'a cessé de restreindre l'application de ce droit cosmopolite en fonction de divers facteurs, l'essor des nationalismes, la poussée des colonialismes, l'affaiblissement de l'idée européenne, etc. Là où l'exilé possède une expérience à transmettre, celle du migrant se réduit à une donnée socio-économique à communiquer. Or, l'expérience de l'exilé dépasse le biographique pour revêtir une importance sociopolitique. Elle pèse comme une dimension essentielle dans le devenir des sociétés modernes et contemporaines, on l'a vu tout au long de la journée. Ce n'est pas un effet secondaire. Alors que l'exemple européen et les phénomènes liés à la globalisation questionnent en profondeur les appartenances nationales et que les migrations à l'intérieur des États ou à l'échelle internationale connaissent une croissance exponentielle, réfléchir sur l'exilience et sur le droit d'exil peut à la fois aider à penser les migrations contemporaines et à suggérer de nouveaux cadres d'analyse pour cerner les identités plurielles du monde contemporain. Il ne s'agit plus d'étudier l'exil à partir de critères territoriaux, mais de repenser le territoire en fonction de l'expérience exilique. L'enjeu de ces débats lexicaux et notionnels dépasse les aspects logistiques de l'accueil des arrivants et en interroge la dimension profondément politique et éthique, comme le montre ce slogan entendu dans une manifestation parisienne, dont l'énoncé abandonne les demandes concrètes pour aussitôt proclamer une devise citoyenne. Un toit et des papiers pour tout le monde, liberté, humanité et dignité. Cette humanité-là, comme la notion co-occurrente de dignité, énonce un principe moral, mais on peut aussi y lire la volonté de placer la revendication sur un plan autre que la simple gestion sociale. Réclamer un droit à l'humanité pose la question de l'humanité. Retour de la littérature. L'exil, c'est la nudité du droit. Asséna Victor Hugo, dans « Ce que c'est que l'exil ». Victor Hugo, je le rappelle, qui vécut presque 20 ans en exil, pendant lesquels il écrivit les Contemplations et les Misérables. Relisons les Misérables à cette lumière-là. Ça commence par le retour d'un exilé, Jean Valjean, et puis Cosette chez les Thénardier, elle est en exil, et puis sa mère dans les rues de Paris, etc., etc., etc. Il écrivit des Contemplations, les Misérables, pendant ses 20 ans d'exil. L'exil, c'est la nudité du droit. Le droit est nu. Même si Victor Hugo, grand amateur de calembour, n'a sans doute pas résisté au jeu de mots, le roi est nu, le droit est nu, le propos est autrement sérieux. À la lumière de son expérience, Hugo affirme que l'exil est le fruit d'un droit ne se souciant ni de justice ni de liberté, un droit dépouillé de ses attributs d'humanité, c'est-à-dire un droit aveugle, arbitraire, absolu, nu. Mais on peut entendre autrement la formule de Victor Hugo. Le droit nu serait une chance pour ses victimes et pour les innocents. La reconnaissance que ce droit ne serait jamais plus fort que lorsqu'il règne par lui-même en dehors de toute législation. Le droit de celui qui arrive les mains nues, qu'il appelle alors de nouvelles lois, de nouvelles règles, puisque la situation est inédite comme celle des centaines de milliers d'exilés choisissant aujourd'hui les terres européennes. Avoir droit au droit, disait Hannah Arendt, c'est le droit minimal, inconditionnel, qui appartient à tout humain. L'espèce humaine, pour reprendre l'expression de Robert Antelme à propos des camps nazis, dessine un seuil qui peut être défini par ce droit, point de transition entre conditions sociales et conditions humaines. La spécificité du recueil « Les Contemplations » tient dans le lien que Victor Hugo tisse entre deux expériences. Son exil, dû à son opposition à Napoléon III, et la perte de sa fille Léopoldine, morte noyée à 19 ans. Les deux réalités n'ont rien en commun. Leurs factualités sont absolument autonomes. Le bannissement de Victor Hugo, la noyade de Léopoldine. Et pourtant, le poète va les mettre en miroir. Je cite « Puisque le froid destin dans ma geôle profonde, sur la première porte en scelle une seconde, et sur le père triste et sur l'enfant qui dort, ferme l'exil après avoir fermé la mort. » Fin de citation. Mécanisme psychologique compensatoire, certes, pour rattacher une souffrance irrationalisable à une épreuve infligée par l'histoire. Mais c'est aussi l'affirmation intéressante pour nous que le niveau où il faut comprendre l'exil n'est pas que celui des données empiriques, politiques ou économiques. Si celles-ci sont premières, elles entraînent un saut existentiel. Autre citation des Contemplations, car le proscrit est seul. La foule au pas confus ne comprend que plus tard, d'un rayon éclairé, cet habitant du gouffre et de l'ombre sacrée. » Fin de citation. L'expérience exilique abandonne donc sa concrétude pour devenir la scène d'une pensée métaphysique. Adam banni, se présente Victor Hugo, et il choisit à l'ouverture du livre 3 des Contemplations intitulé « Les luttes et les rêves » comme compagnon Dante, qui lui aussi chassé de Florence pour des raisons politiques, écrivit la Divine Comédie en exil. Divine Comédie qui n'est qu'un périple exilique de l'enfer au paradis. Certes, chez Victor Hugo, le vieux topos est présent de l'exil de l'âme dans le corps, de la chute de l'âme du ciel à la terre. « Toute terre est un bagne », dit-il. Mais Hugo est plus audacieux quand il fait rimer dans un fracas prophétique « banni et béni ». Entre conditions sociales et conditions humaines, la représentation mesure aussi un passage qui se lit dans une perspective quantitative, numérique pour être précis, le passage de la masse à l'individu, en un effet de rétrécissement. Une telle individuation se constate en interrogeant trois clichés photographiques qui ont jalonné la réception publique européenne de l'information sur la migration ces derniers mois. Clichés si répandus que je n'ai même pas pris la peine de les reproduire en un PowerPoint. La première image, répétée jusqu'en juillet, représente une masse, et non pas par contingence, car son sujet est la masse, vouloir illustrer la massification de la migration contemporaine. Ce sont d'une part les innombrables photos d'embarcations, barques, canaux gonflables, ponts de cargo, et d'autre part les grappes humaines accrochées à des échelles ou à des grillages, par exemple les enclaves espagnoles au Maroc. On se souvient de cette photographie de la silhouette élégante et précise de golfeurs qui golfent alors que l'arrière-plan est tissé par des corps indistincts. La deuxième image est datée d'août, prise par Daniel Elter pour le New York Times. Un père syrien en larmes, joie ou épuisement, arrivant sur l'île de Kos, tenant deux de ses enfants dans les bras. La troisième, vous la devinez, Tout récemment, elle a été projetée ce matin, celle du corps innocent abandonné du petit Eylan, abandonné sur la plage turque de Bodrum, balayé par les vagues. Dimension individuelle dans le cas du petit Eylan, que l'enfance précède l'individuation, ou plutôt marque une individuation potentielle, virtuelle, en germe. Bref, trois mesures de figuration, trois modes de signification, une foule, une famille, un enfant. C'est un processus de socialisation inversé. On va d'une masse à un individu. Ce serait donc une régression. Au quoi ? Au primordial, à l'atome social, c'est-à-dire au sujet humain dans son unicité, comme une apocalypse ou comme une promesse. Condition humaine, ainsi, dans la transparence de la condition sociale. L'humain, dans la transparence de la famille et dans la transparence de la foule. L'exilé, donc, à travers le migrant, mais dans une configuration qui permet de penser l'un pour l'autre, comprendre l'exil pour accueillir la migration. Si l'image du petit Eylan n'a pas fait basculer les consciences, elle sert en revanche à illustrer un changement dans les perceptions. Allongé sur la plage, lui qui a raté le passage de la frontière de l'Europe, il signale le passage d'une autre frontière entre mer et terre. Le mois de septembre en Europe apporte en effet une différence majeure dans le tableau de l'exil de masse contemporaine, plus exactement une modification de son cadre, à savoir non plus la mer, mais la terre. On voit des colonnes de marcheurs. Peut-être parce que la Méditerranée est devenue détestable depuis qu'elle a avalé des milliers de cadavres. Des colonnes, des cortèges, des processions, des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants en marche. Cinq observations brèves à ce sujet. Ces foules en marche en rappellent d'autres. Pendant les guerres, la Seconde Guerre mondiale, les exodes en Espagne, en France. Deuxièmement, l'effet de masse est manifeste et non pas allusif comme 800 migrants sur le pont d'un navire. Troisièmement, le passage du bateau au centre de transit ou de rétention est rapide. Le regard est peu exposé à la réalité des corps en souffrance. De surcroît, le mouvement se double d'une délocalisation des lieux de concentration, non plus Calais, mais Paris. Quatrièmement, sur la terre, les arrivants marchent. C'est-à-dire qu'ils sont actifs et volontaires. Ils ne sont pas portés par le navire. Ils ne sont pas tributaires de la fragilité des embarcations. Et sur le plan symbolique, donc dans les constructions de l'imaginaire, mer et terre ne sont pas similaires. La mer, c'est la matière primordiale, le lieu de l'origine, mais aussi de l'indifférencié. La terre, en revanche, sert à donner forme. Elle crée du vivant, même si la science fait venir l'humain de la mer. Sur la mer, les arrivants redoublent leur ailleurs. Ils sont doublement ailleurs, le lointain de leur origine et l'abîme maritime. Alors que sur la terre, ils sont saisis dans une proximité, une immédiateté, un partage qu'il est moins aisé de fuir. Certes, ce regard glissant d'une condition sociale à une condition humaine signifie aussi un passage épistémologique d'une approche sociologique à une approche anthropologique. Est-ce un mal ? Les deux domaines sont-ils si distincts ? Les développements récents en sciences humaines et sociales prouvent le contraire. L'anthropologie ne serait pas une vue attestant d'une permanence, alors que la sociologie s'occuperait du transitoire. L'histoire de l'humain est marquée de ruptures, de changements, que l'anthropologie a pour charge de repérer. Les guerres du XXe siècle, l'accélération de la télétechnologie, l'informatisation généralisée, etc., exemple de phénomènes ayant entraîné de profondes modifications anthropologiques et non seulement sociologiques. L'image d'Eylan et l'accueil des migrants sur le parvis de l'église médiévale, on nous l'a montré, c'est vous qui l'avez montré ce matin, certes, mais une différence majeure, Eylan repose sans vie. L'exil ou la mort, 20 000 morts en Méditerranée depuis 20 ans. Si les arrivants sont prêts à la mort, et ils le sont, les témoignages et les reportages l'attestent, si les arrivants sont prêts à la mort, c'est que l'alternative est la vie. L'exil ou la mort, la vie prend le visage de l'exil. Comme elle prenait le visage de la liberté ou la mort, pour les révolutionnaires français de 1789, grecs de 1821, polonais de 1861, ou, revenons à l'Antiquité, pour Brutus, l'assassin d'un César tyrannique, selon Plutarque. Voilà, je cherchais votre nom. Voilà. Rome, c'est là. Ces exilés...
Écrit en grec, quand même.
Ah oui, grec de 1820. Exact. Toutes mes excuses. Ces exilés ne sont-ils pas des révolutionnaires, à la fois par leur détermination et parce qu'ils obligent à une nécessaire transformation radicale du système politique, en obligeant à leur donner une place? En ce sens, c'est parce que la migration touche à la condition humaine qu'elle doit être appréhendée comme dimension, comme condition sociale. De la même manière, dans l'avant-propos des Misérables, écrit en exil, je le rappelle, Victor Hugo propose le syntagme de damnation sociale. La condamnation politique de la société, que pourtant Hugo n'a jamais hésité à prononcer, cette condamnation politique est articulée dans un lexique qui, lui, n'est pas politique, mais religieux. La damnation. Vous l'avez compris, j'essaye adroitement de trouver une page qui me manque, mais je ne la trouve pas. Si, la voici. Damnation sociale, dit Victor Hugo. La condamnation politique de la société qu'Hugo n'a jamais hésité à prononcer est donc articulée dans un lexique qui n'est pas politique mais religieux. Il passe dans le syntagme damnation sociale, du social à l'humain. Stratégie discursive qui en renforce la portée. Dans une lettre à son éditeur italien, Hugo écrit « À l'heure si sombre encore de la civilisation où nous sommes, le misérable s'appelle l'homme. » Et Hugo écrit « l'homme » en majuscule. Il agonise, continue-t-il, sous tous les climats et il gémit dans toutes les langues. Et Lamartine ne s'était pas trompé, qui écrivait, à propos des Misérables, « L'homme contre la société, voilà le vrai titre de l'ouvrage. » Fin de citation. Alors, ces arrivants, les exilés, nous pourrions aussi les appeler les Misérables. Mais ils n'ont rien d'une fiction romanesque.